Du coup, c'est cette équipe féminine aussi qui m'a permis, dans un sens, d'aborder la question un peu de la fragilité, de la sensibilité, de la masculinité, en fait, et de venir susciter une parole que peut-être je n'aurais pas eue si ça avait été une équipe entièrement masculine ou quoi.
Qui êtes-vous au juste? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Relaxé.
On aimerait tellement ça relaxer.
Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
Bonjour, ici Sidonie Gaulin, réalisatrice et animatrice du podcast Les Impostures. Vous écoutez le deuxième épisode de la troisième saison, une saison estivale réalisée à Marseille. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, si Les Impostures traite de création artistique, c'est avant tout un projet féministe qui est fondé sur une réflexion sur le rapport entre la prise de parole et l'identité de genre. Le but, c'est de créer un espace pour les voix minorisées, pour qu'elles s'expriment sur leur travail créatif derrière une œuvre artistique de toute discipline. Aujourd'hui, je suis dans les studios de Razo Galère avec la photographe et réalisatrice Anaïs Bazeillac. Bonjour Anaïs.
Bonjour Sidonie.
Donc, je vais te présenter. Tu es née à Seine-sur-Mer, à environ 40 minutes de Marseille. Tu détiens une licence aux Beaux-Arts en spécialisation de photographie. Tu poursuis ensuite un master de recherche en anthropologie, sociologie et histoire de l'École des hautes études en sciences sociales, dans le cadre de laquelle tu as travaillé sur la création artistique féminine en Côte d'Ivoire. Puis, en 2018, tu entames un master pro cinéma et audiovisuel à Aix-Marseille Université, pour lequel tu as réalisé ton premier film documentaire intitulé « La mi-temps », qui est terminé en 2020 et qui a eu un bon parcours en festival, autant en France qu'à l'international. Depuis, tu travailles à ton compte comme réalisatrice, photographe et vidéaste. Tu as réalisé un autre film documentaire pour le Grand Théâtre de Provence, intitulé « Pour la beauté du geste », sur des personnes en situation de handicap qui prennent des cours de danse. Tu t'intéresses aux questions sociales, à la documentation du quotidien, à la place des femmes dans la société. Et avant de voir ensemble la démarche de création de ton film « La mi-temps », toi qui as fait toutes tes études à Marseille puis qui est basée ici depuis très longtemps, qu'est-ce que tu trouves dans cette ville en tant qu'artiste, en tant que photographe ou cinéaste documentaire?
Alors Marseille, pour moi, c'est vraiment une ville inspirante. Je suis arrivée à Marseille du coup lorsque j'avais 17 ans, donc j'étais en terminale et après j'ai poursuivi toutes mes études ici. Et du coup, ça a vraiment été un endroit où j'ai à la fois rencontré des personnes extraordinaires, et en même temps qui m'a permis de vraiment développer au fur et à mesure mes projets artistiques, donc notamment avec des femmes en foyer d'accueil et de réinsertion, ou après, ben, lorsque j'ai travaillé sur la prostitution, notamment rue Curiole, j'ai rencontré des personnes transgenres, etc. Et c'est ça aussi qui m'a amenée après à faire mon film dans un salon de coiffure à Marseille. Et en fait, pour moi, cette ville, elle est vraiment, c'est vraiment un vivier à la fois de personnes extraordinaires, de couleurs, c'est vraiment des rencontres assez incroyables que j'ai fait ici.
Qu'est-ce qui se passe au niveau de la photo? Il y a beaucoup, comme tu as commencé là-dedans, il y a beaucoup d'événements, il y a le centre photo de Marseille, les photographes ici qui sont, j'ai l'impression qu'il y a une grande vie artistique à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai qu'au niveau artistique et notamment au niveau de la photo, il y a quand même... je trouve des photographes très inspirants comme Johan Lamouler, par exemple, ou même des lieux qui viennent d'ouvrir il y a quelques années, comme Olab Photo, qui développe toute la photo argentique, etc. Moi, c'est vrai qu'en intégrant les Beaux-Arts, ça a vraiment été aussi une porte d'entrée pour moi me familiariser aussi avec tout ce milieu artistique, donc aller dans des galeries, rencontrer des gens aussi qui sont pas spécialement spécialisés en photo, mais en tout cas, y avait quand même ce vivier-là, ce terreau, en fait, qui était assez inspirant lorsque j'avais 18 ans, quoi. Et après, c'est vrai que la ville en elle-même, je trouve, est inspirante en tant que telle, parce qu'elle est unique, voilà. Elle est vraiment unique. Mm-hmm. Et après, moi, c'est vrai que je m'intéresse plus aux questions, on va dire, sociales. Je me suis plus dirigée vers le documentaire. Et donc, par ce biais-là, j'ai pu vraiment faire des rencontres assez extraordinaires, en fait.
On va aller en musique, en fait, parce que à la base, pour les personnes qui n'ont jamais écouté l'émission ou le podcast, dans la dernière saison à Montréal, je m'étais adaptée au format radio et je demandais aux invités de choisir des chansons pour les intermèdes musicaux. Et j'ai décidé de garder ce format-là pour la saison 3. Ça ajoute une texture, ça permet de découvrir les artistes et aussi le projet. Dans ton cas, tu as choisi une chanson qui va introduire justement la mi-temps, dont on va parler juste après. Peux-tu nous en parler un peu?
De la musique.
Oui.
De la musique. Donc la musique, c'est Bells on Breakdown de Booga. J'ai choisi cette chanson déjà parce qu'elle est assez connue et représentative de Marseille. Moi, depuis que je suis arrivée à Marseille, c'est vrai que je l'ai beaucoup écoutée en soirée, par exemple. Enfin voilà, tout le monde connaît un peu cette chanson et elle est assez connue, quoi. Et en fait, c'est assez chouette parce que quand j'ai commencé le film, le tournage du film, il y a Booga qui était dans le salon, c'était un pur hasard, et qui m'a fait la chanson en a cappella et on a pu tourner ça un peu directement. Et donc, ça a fait aussi l'intro du film, en fait.
Et Belzunce, voilà. C'est un quartier, le quartier de Booga à Marseille.
Voilà, et Belzunce aussi, exactement, c'est le quartier assez... on le retrouve souvent là-bas d'ailleurs, je le croise souvent.
Manga. Belzunce, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde, Belzunce breakdown. Chacun s'occupe comme il peut, à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui le crut, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzunce breakdown. De mon front, pas de rêve, gars. Une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive. On n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus et ça cause des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais. On en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzunce! Tout sort d'une ronde, Belzunce breakdown. Tout sort d'une ronde, Belzunce breakdown. Tout sort d'une ronde, Belzunce breakdown. Tout sort d'une ronde, Belzunce breakdown.
On écoutait Belzunce breakdown de Booga. la chanson qui ouvre le film La Mi-temps de Anaïs. J'aimerais dire un peu comment j'ai découvert La Mi-temps. C'était dans le cadre d'une soirée court-métrage qui est organisée par le festival Film Femmes Méditerranée en collaboration avec Solidarité Femmes 13. Et je pense que c'était des débutantes programmatrices qui avaient regardé plein de courts-métrages et qui avaient sélectionné cinq films pour le public. C'était presté au cinéma Les Variétés en avril dernier. Donc, La Mi-temps, c'est un court-métrage documentaire de 25 minutes qui est tourné dans un salon de coiffure qui est situé dans le 5e arrondissement de Marseille, qui s'appelle Lorenzo Style, et qui porte un regard sur la masculinité. Donc, avant de voir ensemble le processus de création du film, je pense que ce serait intéressant de parler de ce qui t'a amené au documentaire. On a commencé par la photographie, mais comment ça... Et déjà là, en photographie, tu avais déjà un intérêt pour le documentaire, pour les sujets humains. Mais j'aimerais en savoir plus sur ce processus-là.
Alors, j'ai commencé la photo assez jeune. Je devais avoir 12-13 ans avec mon premier argentique qu'on m'avait offert à cette époque. Et en fait, directement, j'ai su que, que je voudrais en faire mon métier un jour ou l'autre. Sauf que voilà, je suis passée un peu par d'autres chemins. Donc à 17 ans, en fait, en passant mon bac, j'ai voulu intégrer l'école de photo d'Arles. Et d'abord, il fallait avoir un bac plus 2, donc commencer des études pour pouvoir intégrer cette école. Et c'est là où je me suis dit, je vais commencer par les Beaux-Arts. Et donc en intégrant les Beaux-Arts, finalement, j'ai fait qu'une licence dans cette école. Mais ça a été assez enrichissant parce que j'étais assez jeune et donc j'ai découvert tout cet univers-là. Après, c'est vrai que moi, mon travail, c'est doucement tourné vers le documentaire plus que vers le conceptuel, etc. Donc des fois, j'avais du mal à trouver ma place. Et finalement, c'est un peu un mal pour un bien parce que ça m'a permis vraiment de développer un peu mes sujets à moi, quoi. Et donc, je me suis beaucoup intéressée au féminisme. J'ai commencé, en fait, à travailler avec un foyer d'accueil et de réinsertion sociale à Marseille. Donc, c'est des femmes qui sont en difficulté, des fois qui ont été battues, par exemple, qui se retrouvent, en fait, à vivre en communauté dans ce foyer. Et donc, j'ai commencé par faire des photos, portraits, puis à ajouter du son, enregistrer leur voix, leurs témoignages. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, ça m'a menée vers la vidéo. Et donc, j'ai commencé avec ma petite caméra à filmer ces femmes dans leur quotidien. Film que finalement, je n'ai jamais vraiment monté et terminé. Mais voilà, j'ai toujours les rushs sur un disque dur et je me dis peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose, quoi. Mais peu importe, au final, ça m'a vraiment permis de tester aussi ces outils-là qui sont l'enregistrement sonore, la photo, la vidéo. Voilà, de voir aussi quel rapport à l'image j'avais moi et ces femmes aussi. Enfin voilà, leur donner aussi corps et voix à travers le son. Puis au fil du temps, en fait, en terminant après cette licence, je me suis dirigée vers l'anthropologie et ça a été un peu un coup de chance, on va dire, mais j'ai intégré donc l'école des hautes études en sciences sociales à Marseille, qui est à la Vieille Charité. Et finalement, ce master m'a permis de partir en Côte d'Ivoire. Donc j'avais carte blanche, je pouvais choisir le sujet qui m'intéressait, choisir ce qui m'intéressait le plus. Et donc, j'ai pris la décision de travailler sur la création artistique féminine en Côte d'Ivoire et de rencontrer des femmes artistes. Dans ce cadre-là, dans ce voyage-là, j'ai pu, à mon retour, écrire un mémoire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai à la fois écrit ce mémoire, mais j'ai aussi incorporé des photos. Mmh. Et à ma soutenance, il y a ma co-tutrice qui m'a dit « Non, mais vous, vous devriez vous remettre à la photo, en fait. » Et sur le coup, je l'ai un peu mal pris en me disant « Mais pourquoi elle me dit ça? Ça veut dire que je suis nulle en anthropo, enfin voilà. » Et en fait, ça m'a servi parce que je me suis dit « Ok, en fait, peut-être que je ne suis pas faite pour être vraiment dans ce milieu-là d'anthropologie, à écrire des mémoires, des thèses, enfin être dans une bibliothèque. Peut-être que en fait, je suis faite pour quelque chose qui est un peu plus sur le terrain, qui a aussi un côté peut-être artistique. » Et donc, c'est là où je me suis dit « Ok, je me relance dans un second master après celui-là. » Et j'ai intégré le master cinéma documentaire à Marseille. Donc la première année, on écrit un projet de film et il n'y a que 5 personnes, il me semble, ou 4, je ne sais plus, pardon. Il n'y a que 5 personnes qui peuvent, à la fin de la première année, réaliser ce film. Et en fait, les autres personnes de la classe se mettent à un poste technique. Donc voilà, moi j'ai écrit ce projet de film dans ce salon de coiffure, la mi-temps, qui a été sélectionné et que j'ai pu réaliser l'année suivante.
Puis en quoi ça consiste exactement comme formation, le master? Vous êtes accompagné dans l'écriture, c'est quelqu'un comme un mentor, une mentor qui te guide, c'est du documentaire, donc il y a quand même pas le même scénario qu'en fiction, mais comment ça s'est passé cette écriture-là aussi?
Donc il y a ces deux années, la première où on écrit tous notre projet, et on est assez encadré. D'abord, on a quand même quelques modules un peu techniques d'images, de sons, de montage. Donc, c'est quand même assez formateur. Par exemple, moi, je me suis dit, ah ouais, j'ai découvert le son, par exemple. Je me suis dit, ah, ça m'intéresse. Enfin, voilà, le montage aussi. Et à côté de ça, oui, il y a vraiment ce pan qui est l'écriture. Et donc, on a bah, notamment un producteur de films de force majeure qui est venu pour nous aider à relire nos dossiers, à nous conseiller. On avait aussi une dame qui travaille dans la diffusion qui est venue nous expliquer un peu le parcours des films documentaires. Donc voilà, on était quand même assez encadrés. Après, je trouve aussi, enfin moi ce qui m'a manqué en sortant du master, c'est vraiment l'aspect ok, t'es en freelance, comment tu te débrouilles, ou l'aspect plus bah, financier, comment est-ce que tu fais pour gagner ta croûte, enfin voilà, pour te faire des relations. C'est vrai qu'après on est un peu lâché dans la nature. Et après, on avait quand même tous la règle, entre guillemets, de travailler sur Marseille, donc, ou dans les alentours, mais pas trop trop loin. C'était vraiment avec cette idée de court-métrage, pas de long. Voilà, donc on avait quelques consignes, en fait, qui permettaient aussi de recentrer un peu nos idées, quoi.
Et comment tu avais trouvé ton sujet, le lieu, Lorenzo Steele? Qu'est-ce qui te fait allumer que c'était ça le sujet du documentaire?
En fait, du coup, pendant longtemps, j'ai travaillé plus avec des femmes et sur les parcours de femmes en difficulté, entre guillemets, qui étaient pour moi des combattantes un peu. Et ça m'a beaucoup questionnée sur la place des femmes dans la société, moi, mon rapport aussi à ma féminité, tout ça. Et finalement, les hommes, en fait, quelle est vraiment leur place aujourd'hui? Enfin, quelles sont leurs places, même au pluriel, on pourrait dire. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de les questionner un peu sur leur sensibilité, leur masculinité, leur rapport au corps. Et en fait, tous les jours, je passais devant Lorenzo Steele. Et je me disais, mais tiens, en fait, dans ce lieu, plein d'hommes se retrouvent un peu entre eux et ils passent du temps. Certains sont vraiment des habitués, c'est-à-dire qu'ils vont rester des heures à parler à leur coiffeur, ou ils viennent chaque semaine, soit pour la barbe, soit pour se refaire un peu les contours, tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce lieu. Et donc, en allant à la fac, j'habitais à la Plaine et je passais tous les jours devant. Et un jour, je me suis dit, bon, je rentre, on va voir ce qui se passe. Et j'étais aussi allée dans un autre salon de coiffure avant, mais qui m'avait pas trop. Enfin, il se passait pas grand chose. Et en fait, en rentrant dans ce salon, ça a été un peu comme un flash de ok, ici, il y a vraiment matière à faire un film, en fait.
Le Lorenzo Steele, il y a beaucoup. C'est connu à Marseille? Il y a beaucoup d'hommes qui vont là de tous les quartiers? Comment c'est?
C'est ça, bah en fait, c'est vraiment devenu une institution à Marseille. Il y a des hommes déjà de tous les âges, donc autant des gamins, autant des tout petits qui sont accompagnés par leur père ou leur mère, des fois, que des ados qui viennent des fois même un peu en bande, c'est un peu leur sortie du samedi, quoi. Et des fois même des hommes beaucoup plus âgés, enfin voilà, il y a un peu toutes sortes d'âges et toutes sortes de catégories sociales, c'est aussi ce qui m'a étonnée. C'est-à-dire, on va avoir, d'ailleurs on le voit un peu dans le film, un mec qui vient de Nice avec la petite chemise, un peu propre sur lui, tout ça. Et puis deux secondes après, un mec, bon ça on le sait pas, mais qui sort de prison, qui a une sorte de sortie autorisée et qui vient bah, justement se faire couper les cheveux. Donc, et ouais, c'est devenu une véritable institution aussi parce que le lieu a une décoration très particulière. Il y a des maillots de foot partout, plein de couleurs. Ils sont un peu spécialisés dans les couleurs dans les cheveux, enfin les motifs, tout ça. Et voilà, il y a certains coiffeurs qui vraiment sont méga calés là-dessus, quoi. Et même le patron du bar dans lequel je travaillais à l'époque venait là de temps en temps. Donc c'était assez chouette de se dire, ok, c'est vraiment, ça brasse tout Marseille, quoi, ce lieu. Et tu dis Lorenzo Steele, tout le monde connaît, quoi. Donc voilà.
À défaut de pouvoir voir les maillots de foot dans le podcast, on va aller écouter un premier extrait du film.
Et à l'armée, tu peux avoir une grosse barbe comme ça?
Non, justement, c'est interdit. C'est pour ça, là, j'en profite du fait que je sois sorti pour pouvoir la laisser pousser et l'entretenir maintenant. Parce que comme on perd les cheveux, il faut bien se rattraper. Hein. Le matin, il n'y a plus rien à coiffer. Alors au moins, on coiffe la barbe et puis les cheveux. Ça va plus vite.
Et depuis combien de temps tu perds tes cheveux?
Ça, ça reste un secret, ça. Parce que sinon... Ben, je sais pas, en fait. De plus en plus que je viens ici, Jacine me prend moins cher. Je sais pas pourquoi. Si c'est peut-être parce que j'ai moins de cheveux ou si... parce que je suis un ancien, je sais pas.
On a moins de travail à faire aussi.
Ah, voilà, c'est pour ça. Souvent, il me fait que le dégrader. Le dessus, il touche pas.
Ça risquerait de le fâcher si je touche au-dessus.
Oui, c'est pour ça. Au-dessus, c'est avec les doigts. C'est sans ciseaux, sans... sans rien.
On fait semblant.
Voilà, c'est juste du semblant. Ça te va dessus, c'est bon? Oui, nickel, race. Par contre, le matin, on évite les miroirs. Hein.
Donc, on entend ta voix dans le film qui interagit avec un client, le militaire. Bon, donc, on sent tout de suite qu'il y a ta présence dans le film. Comment, en fait, tu as travaillé en amont pour aller rencontrer les clients? Est-ce que, en fait, tu es allé leur dire « Je vais faire un film, je vais être là souvent. » Comment tu as préparé le lieu et l'intégration de toi et ton équipe au lieu qui est devenu un lieu de tournage, qui n'était pas un lieu de tournage à la base, mais qui en est devenu un?
Alors, la première année du master documentaire, ça a vraiment été là où j'ai écrit le film et où je suis allée faire des repérages. Donc, d'abord, dans un premier temps, j'ai rencontré Salim, le patron, qui était pas trop chaud. Et en fait, au fil du temps, il m'a dit « Ok, vas-y, fais ton film, c'est ok et tout. » Et en fait, j'ai rencontré d'abord les coiffeurs et c'est par le biais et la rencontre avec ces coiffeurs que j'ai pu rencontrer les clients, en fait. Et donc après, la première année, vraiment, j'avais quelques clients un peu clés où je me suis dit « Super, donc lui... il va dire ça, ça va se passer comme ça, tout ça, la deuxième année, si mon film est pris. » Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et il y a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de moments où en fait, des gars que je ne connaissais absolument pas ont commencé à parler, à ouvrir leur cœur, à parler un peu de leur complexe, on va dire. Et voilà, et ça a été le cas pour cet homme. J'étais là ce matin-là avec donc mon équipe, qui était aussi, je le précise, une équipe que de femmes. Et je sais pas, la caméra, tout ça, je pense qu'il a voulu en jouer. Et il y a un peu quelque chose qui lui a échappé. Et j'aime bien cet extrait que tu as choisi, parce qu'on sent qu'à la fin, il y a un peu un sentiment de... pas de tristesse, mais voilà, il y a quelque chose qui se dégage de ses paroles, quoi. Qui est intéressant, je trouve, sur son rapport à sa masculinité, à son corps, à sa coiffure. Et voilà, et du coup, on va dire que ça s'est un peu fait au fur et à mesure, mais il y a eu aussi beaucoup de moments imprévus, quoi. Et après, c'est vrai qu'au moment du tournage, au début, j'avais pour idée de vraiment être effacée complètement du film, c'est-à-dire qu'on ne m'entende pas, qu'on ne me voit pas. Et en fait, il y a un moment, au bout de, je crois, une semaine où j'étais avec les profs et on dérochait un peu ensemble et il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Des fois, je filmais des moments de coiffure où il ne se passait rien. Ça dure pendant une demi-heure de rien, enfin de rien. Où juste le gars se fait coiffer et il ne parle pas, etc. Et en fait, c'est les profs qui m'ont dit bah, peut-être qu'il faudrait que tu suscites un peu la parole, que tu viennes chercher. Et donc, au début, j'étais un peu réticente parce que vraiment, je n'étais pas à l'aise avec ça, avec cette idée-là. Et puis finalement, il y a des moments où je me suis lancée et c'est là où, en fait, en posant des questions, ben, ça a fait émerger une parole qui m'intéressait autour de vraiment le rapport au corps, à l'apparence, à la masculinité. Comme dans ce cas-là, en fait, où je lui ai dit « Ah, ben, à l'armée, tu peux avoir une barbe comme ça ?» En soi, je savais déjà la réponse, mais c'était vraiment pour susciter cette parole-là, en fait.
Est-ce que les sujets, les clients, les coiffeurs savaient que tu voulais vraiment parler de masculinité ou... c'était encore un peu flou, cette zone-là, de quel était le sujet?
Alors, j'ai quand même essayé d'être assez claire dès le début.
Ouais.
Parce que pour moi, il y avait aussi un côté un peu d'éthique. Enfin de, ouais. C'est-à-dire de ne pas les amener vers un terrain où ils ne s'y attendraient pas et où ça allait poser problème après. Donc, quand même, j'étais assez claire sur OK, ça va parler de la masculinité, le rapport à la sensibilité, au corps, à l'apparence, à la coiffure. Donc, ça, c'était clair. Après, les questions que j'allais poser n'étaient pas... Enfin, j'en parlais pas spécialement avant. Et par contre, le patron était au courant aussi.
Je combien de temps ça a duré le tournage? Tu viens de le dire, c'était une équipe qui était entièrement féminine, donc dans un lieu qui est majoritairement masculin. On voit, je pense, une coiffeuse dans le film. Les autres, c'est des coiffeurs. Donc, c'est un peu, je trouve, intéressant parce que c'est un renversement des rôles plus traditionnels en cinéma où est-ce que c'est, bon, les hommes qui filment les femmes, alors que là, c'est complètement l'inverse. Alors, combien de temps ça a duré aussi? Comment ça s'est passé, cette cohabitation?
Alors, le tournage a duré, je dirais, un mois. Mais à la base, je voulais qu'on vienne tous les jours, toute la journée. Et en fait, j'ai dû réadapter parce que le salon est quand même assez petit. Enfin, il y a quand même deux salles, mais en fait, avec la perche, la caméra, tous les miroirs, la musique en fond, c'était assez complexe. Et du coup, j'ai dû un peu réorganiser le temps et venir, par exemple, des matinées ou donner un peu des rendez-vous à des gars. Voilà. Ça s'est un peu fait comme ça pour aussi pas trop gêner les coiffeurs qui font quand même des grosses journées et les clients aussi qui des fois ne veulent pas être filmés. Enfin voilà, il y avait un peu tout ça à organiser. Donc ça, c'était sur un mois, mais ça s'est un peu étalé quand même. Bah oui, du coup on était une équipe de femmes, donc Antoinette qui était à l'image et Alice au son. Et ça a été un peu un hasard au début parce que c'est un peu comme ça que ça s'est fait au moment où je cherchais des gens pour venir... sur mon film, enfin sur l'aspect technique. Et au final, ça a été super parce que je pense que c'est vraiment cette équipe féminine aussi qui est venue susciter une parole qu'on n'aurait peut-être pas eue s'il y avait des hommes dans mon équipe. Après, je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas fait avec des hommes, mais voilà. Et pareil, Clara qui a été au montage, ça a été génial d'avoir aussi une femme qui était au montage qui avait vraiment un regard aussi féminin, enfin voilà, et c'est venu apporter, je pense, quelque chose de différent que si ça avait été un homme qui avait monté tout le film. Du coup, c'est cette équipe féminine aussi qui m'a permis, dans un sens, d'aborder la question un peu de la fragilité, de la sensibilité, de la masculinité, en fait, et de venir susciter une parole que peut-être j'aurais pas eue si ça avait été une équipe entièrement masculine ou quoi.
Il y a aussi les images, c'est des plans très rapprochés, c'est logique parce qu'ils sont en train de se faire coiffer, mais j'imaginais un peu toi, la DP, qui est vraiment dans l'intimité des hommes qui se font coiffer, comment ils réagissaient à cette proximité-là de la caméra à leur visage?
Alors en fait, le but un peu du montage, mais même lors de l'écriture, c'était un peu une idée que j'avais eue de... qu'on suive un peu une progression vers l'intime, c'est-à-dire qu'on commence avec Marseille, planter un peu le décor, et c'est là où il y a Bouga qui est là, enfin voilà, on voit des plans du salon de manière assez large, juste ça plante un peu voilà, le décor, les gens, les coiffeurs, comment ça marche, où est-ce qu'on est, quoi. Et au fil du temps de se rapprocher, donc c'est vraiment Antoinette qui a fait l'image tout au long du film, mais effectivement, il y a certains plans où là, j'ai pris la caméra comme... un moment où il y a la musique et on est très très proche de la peau, tout ça. Là, c'est moi qui ai filmé. Et j'avais cette envie-là d'apporter aussi un peu ma petite touche sensible, enfin voilà, de vraiment qu'on bascule un moment dans autre chose, en fait, dans le film. Que juste, ah bah c'est marrant, on est à Marseille, il y a des gars drôles et ils se font coiffer et on met de la musique. Et voilà, en fait, j'avais vraiment envie d'apporter autre chose. Et après, eux, en fait, ouais, moi, ça m'a étonnée à quel point la caméra a vraiment... certains étaient vraiment très à l'aise. Et notamment, toute la bande un peu de jeunes qu'on voit, qui sont amis avec le coiffeur, et donc où il y a ce plan très rapproché de la peau, en fait, ils étaient super à l'aise. Et au contraire, ils ont vraiment joué de la caméra, quoi, pour... c'est ce moment-là où il y a « tu étais chiffonnée, non, c'est pas moi », enfin tout ça. Où ils rigolent par rapport à leur histoire de cœur et leur peine d'amour un peu. Donc voilà, non, je dirais que ça m'a moi-même étonnée à quel point ils étaient assez à l'aise et OK avec le fait d'être filmés de cette manière-là, quoi.
Là, ils se transforment en personnage un peu avec la caméra, un peu comme lorsque tu parlais le militaire, l'extrait qu'on a écouté, c'est comme si tout d'un coup, il se met à jouer un rôle.
C'est ça.
Ça provoque quelque chose chez les gens.
C'est ça, et je trouve ça d'ailleurs intéressant à quel point À la fois, du coup, ma présence, des fois, pouvait les déstabiliser. Et donc, ils avaient, je pense, des fois, envie de... Bah, tiens, je vais dire ça, je vais faire comme ça et tout. Et des fois, ça dérape, en fait. comme là, avec le militaire, l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure. Ou même, en fait, le moment où le coiffeur... tu sais, avec les jeunes, le moment où le coiffeur dit « Ah bah, de toute façon, t'étais chiffonnée avec ta peine de cœur. » Et l'autre, il est un peu surpris. Il dit « Mais non, pas du tout, ce faux, nanana. » « Si, si, bah, toi aussi, t'étais chiffonnée et tout. » Enfin, voilà. Et je trouve que c'est marrant, ces échanges-là, parce que eux-mêmes sont surpris de ce qui est en train de se passer, quoi.
Chiffonnée, dans le sens, les deux étaient en peine d'amour.
C'est ça.
Donc, déjà là, on rentre encore dans le thème de la sensibilité, la vulnérabilité masculine. Et cette espèce de déni qui a à moitié du déni.
C'est ça, parce qu'ils en rient aussi.
Exact. Il y a aussi, bon, on va écouter un deuxième extrait parce qu'il y a deux temporalités dans le film. Il y a la temporalité plus cinéma direct où est-ce qu'on filme le quotidien des clients. Mais tu as choisi aussi d'inclure des entrevues où est-ce que des hommes se parlent de leur rapport à la sensibilité, à leur apparence. Donc, avant d'en parler, on va aller écouter un extrait qui représente cette temporalité.
J'ai pas honte d'être triste devant les gens, j'ai pas honte de pleurer s'il faut pleurer, je veux dire, on est tous des humains. J'ai jamais trop eu honte de certaines choses, c'est d'exprimer mes sentiments ou d'exprimer comment j'étais. C'est ça que, déjà, depuis tout petit, je me suis démarqué des gens, tu vois. Depuis tout petit, j'ai eu un style assez atypique, je me suis vraiment démarqué des personnes. J'ai jamais vraiment eu trop honte d'être qui j'étais réellement, tu vois. Je m'en suis jamais caché. Tout le monde le sait ici. Voilà, ils me connaissent parce que déjà, d'une, j'ai toujours été un peu extravagant, tu vois. Bon, je me suis calmé là, avec le temps, j'ai été père, machin, tout, tu vois. Mais avant, quand je fréquentais le milieu du rap, moi, je faisais de la photo. Non, j'ai toujours été un peu extravagant, tout ça. J'ai fait ce que je voulais au niveau de mon physique, au niveau de capillairement parlant, piercing, tatouage, machin. Je m'en foutais.
Je me sens sensible, mais correct. Mais correct. Je me sens pas non plus attaqué par cette sensibilité, tu vois. C'est pas un truc qui me déséquilibre, on va dire. Au contraire. Au contraire, on va dire que ça fait partie de mon équilibre. Le jour où je serai plus sensible, ça veut dire que peut-être j'aurais pris la grosse tête, tu vois. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que je devrais me poser des questions, me remettre en question, tu vois.
Donc, on entendait les deux hommes qui se sont prêtés à l'exercice qui structure un peu le film. Est-ce que c'était une intention à la base de créer ce moment-là d'entrevue, de face-à-face avec la caméra, de briser un peu l'autre dimension du film où est-ce qu'il y a un peu les interactions au quotidien? Est-ce que c'était intentionnel dès ton écriture?
Alors, pour les entretiens, oui, c'était complètement intentionnel. D'ailleurs, c'était pas trop soutenu par les profs qui suivaient un peu mon film au départ, parce qu'ils avaient peur que ce soit un peu vu et revu et que ça vienne pas spécialement apporter quelque chose au propos. Mais j'ai tenu tête parce que j'avais peur que juste avec les moments de quotidien dans le salon, ce soit un peu creux, en fait. Et j'avais envie vraiment d'aller un peu plus loin sur cette question-là de la masculinité. Et pour moi, c'était pas possible dans le salon. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ils jouaient beaucoup de la caméra. Il y avait quelque chose aussi dans leur lien avec les coiffeurs, en fait, qui venaient interagir dans leur relation avec moi. Et du coup, j'avais vraiment envie de créer comme une forme de cocon qui était quand même dans le salon, mais à l'arrière, en fait, un peu en arrière-boutique. Et là, de leur poser des questions un peu plus frontalement. Donc, ça a vraiment été important pour moi, ce moment des entretiens. Après, j'en ai fait quand même pas mal. Et on n'a pas du tout gardé au montage. Parce que c'est vrai que certains, du coup, étaient complètement tétanisés à l'idée de parler face caméra de choses assez intimes. Et d'autres, au contraire, étaient beaucoup plus à l'aise. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, donc, la deuxième personne qui parle, c'est Ishai. C'est un homme que je connaissais absolument pas. Et au moment du tournage, en fait, j'étais en train de filmer un coiffeur en particulier avec un client. Et puis, il est arrivé. Il m'a dit « Ah, tu fais quoi ? Tu tournes un film ?» J'ai fait « Bah oui, c'est autour de la masculinité, du rapport au corps, à l'apparence. »« Ah ouais, ben moi, j'ai plein de choses à dire et tout. Viens, on le fait après et tout. » Je n'avais pas du tout prévu ça. Et en fait, il s'avère que c'est vraiment... Ishaï, c'est le fil rouge du film. Enfin, on le voit beaucoup de fois parce que... Cet entretien me restera toujours en mémoire, quoi. Et c'était assez incroyable à quel point il a ouvert son cœur. Et puis voilà, enfin dans le film, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de... Enfin, sans lui, ça aurait pas été le même film, je trouve. Du coup, voilà, pour moi, cet aspect des entretiens, c'était vraiment important. Et je trouve que sans ça, le film aurait été différent.
Puis c'est un peu ça qui a structuré le montage, comme tu viens de le dire. J'imagine que tu as eu énormément de rush avec un mois de tournage. Comment c'est avec son entrevue que... Est-ce que tu le savais en le filmant que ça allait être ça ou c'est plus en revisionnant que tu as établi ce fil rouge?
Alors, le fil rouge, je l'avais déjà en fond voilà, de parler de ça. Après, avec la monteuse Clara, on est parti au départ... sur le fait de tout dérusher, je crois qu'on avait 40 heures de rush, enfin, c'était un peu l'angoisse en vrai. Et il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas, et du coup on est passé par plein de phases de joie, de tristesse, de désespérance la plus totale. Et en fait, au moment du montage, c'est vrai qu'on a d'abord commencé, il me semble, hein, par un peu revoir tous les entretiens et dire « Ok, de quoi ça parle, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. » Il y en avait beaucoup, donc on a un peu tout trié comme ça. Et en fait, notre premier ours faisait 40 minutes et c'était méga scolaire, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire, ça faisait un peu exposé, quoi. Et c'est un des profs qui m'a dit « Non, mais là, ça ne va pas du tout. » Ça suit trop comme un peu des catégories qui se mettent à la suite. Il faut un peu tout reprendre et tout remélanger. Et j'ai un ami qui s'appelle Charles qui est venu en salle de montage un jour, on n'en pouvait plus. Et là, il m'a dit « Ok, en fait, t'enlèves ça, ça tu remets à cette place-là. » Genre, faut un peu mettre de l'air et tout rebouger, quoi. Et grâce à lui, en fait, ça nous a vraiment permis d'avoir un nouveau souffle, un second souffle, et de repenser vraiment le montage. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à ce format de 24 minutes, qui, je pense, marche mieux parce qu'on est vraiment parti sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et du coup, dans les entretiens, on a vraiment gardé l'essentiel. Donc, que deux personnes. Et voilà, en fait. Et tous les autres m'ont quand même aidé à aller là où je voulais aller. Mais finalement, on ne les a pas gardés au montage.
Non, c'est souvent des fois dans le montage que le titre émerge. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as trouvé? Qu'est-ce que ça signifie pour toi?
Alors, à la mi-temps, en fait, au début, j'avais pour idée de... Je crois que j'avais appelé ça le temps d'une coupe ou un truc comme ça. Et j'avais mis le titre provisoire sur mon dossier parce que je n'étais pas du tout certaine de moi. Et en fait, Clara, on cherchait un titre et à la mi-temps, c'est un peu un clin d'œil à l'univers du foot, qui est quand même très très marqué dans le salon. Et puis surtout le fait de faire une pause, en fait. C'est un peu une pause dans le quotidien, le fait de venir se faire coiffer, de prendre un temps pour soi, un temps où des fois, juste ils vont un peu se livrer à leur coiffeur qu'ils connaissent ou croiser des personnes qui le connaissent. Et du coup, c'était vraiment cet aspect pause, un peu parenthèse en fait, dans le quotidien que je trouvais intéressant. Et c'est pour ça que Clara et moi, on a trouvé la mi-temps. Et je trouve que c'était bien parce que c'était assez concis et assez court, quoi. Donc voilà.
Puis le travail du son. Le salon de coiffure, c'est un lieu qui est extrêmement bruyant. Il y a le bruit des séchoirs, des conversations, il y a aussi toujours de la musique. Donc, tu avais un peu une trame sonore là, qui était déjà là pour toi. Et on entend Bouga, il y a aussi Diams. Puis à deux moments, il y a l'ajout de musique qui est... extra-diégétique, si je ne me trompe. C'est un terme pour dire que la musique ne vient pas de l'environnement filmé, mais est vraiment mise de l'extérieur au montage. Comment t'as expérimenté avec cette dimension-là sonore dans le tournage et au montage aussi?
Alors, c'est vrai que la musique dans le salon de coiffure, déjà, a une place super importante parce que c'est vrai que ce salon est quand même un espace de socialisation, quoi, où les hommes se retrouvent pour partager à la fois ce temps de coupe, mais aussi des fois des discussions ou quoi. Et la musique est assez forte, donc il y a quand même un sentiment d'appartenance qui va se dégager par l'univers, notamment du rap, parce que c'est essentiellement du rap qui est diffusé. Du coup, je trouvais quand même intéressant de garder cet aspect-là musical et des fois de laisser des moments où en fait, la musique est à fond et les coiffeurs vont chanter ou juste les jeunes vont faire de nouvelles découvertes. Enfin, voilà, y a quand même tout cet aspect-là qui est important, je trouve, à souligner. Après, j'avoue que le travail du son, ça a quand même été un peu une galère au tournage parce que c'est très, très bruyant. Entre, comme tu disais, les tondeuses, les bruits de ciseaux, la musique en plus, les discussions, des fois j'ai dû un peu demander à ce qu'on diminue ou là il y a ce personnage, cette personne là qui arrive dans le salon, est-ce qu'on peut un peu diminuer, j'ai dû un peu dealer avec ça, on va dire. Et après moi je voulais apporter un peu en suivant justement cette trame-là de... Au début, c'est un peu Marseille, c'est un peu bruyant, c'est un peu le bazar, tout ça. Après, venir sur un autre terrain, en fait. Et du coup, la musique qui a été composée, c'est... Le compositeur, c'est Marvin Klesch. Et ça a vraiment été un moment où, là, je voulais apporter une forme de poésie à ce moment-là. Et c'est ça qui entre... en adéquation avec les gros plans sur la peau. Enfin, là, c'était vraiment pour apporter aussi un autre univers, en fait, et une autre touche, quoi.
Ça donne un autre rythme aussi.
C'est ça, voilà. Et pas rester que dans le rap, que dans l'aspect street et tout.
Parlant de musique, on va aller avec ton deuxième choix musical. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on va écouter et pourquoi?
Alors, la deuxième chanson que j'ai choisie, c'est de Alt J, c'est Hunger of the Pine. Et rien à voir du coup avec mon premier choix, mais justement ça illustre un peu ce dont on vient de parler. C'est juste pour moi une musique inspirante que j'écoute des fois quand je sais pas, j'écris ou juste le matin, enfin voilà, et je trouve qu'elle est super belle. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing, in case I need it. In my stomach, on my heart, chainmail, hunger of the pine, hunger of the pine. Sleeplessly embracing yon yon tint to me, plenty more days in the sea, and so you finally use it. Bedding with me, you see at night, your heart wears night armor. We'll be right back.
C'était une chanson de Alt J, Hunger of the Pine. J'aimerais bien parler de la réception et la diffusion du film. Le film a terminé son. Ben, le montage est terminé en février 2020. On sait très bien ce qui est arrivé juste après. Donc, tu n'as pas pu l'accompagner en festival. Il a quand même beaucoup circulé. Tu l'as envoyé. Comment ça s'est passé, la distribution là?
Alors, j'ai terminé le film, du coup, effectivement, en février 2020. On a eu une première projection dans le cadre de l'école à l'Alhambra, à Marseille, à l'Estac. Et c'était super chouette. On avait, du coup, nos films de fin d'études qui étaient diffusés. Donc, ça m'a permis d'avoir des premiers retours. J'ai pu inviter aussi Salim, le patron du salon, et quelques coiffeurs qui sont venus. Et voilà, et ensuite, effectivement, bah, il y a eu le confinement. Donc, je l'ai envoyé quand même en festival en me disant, bon, bah, on verra si c'est pris, et puis sinon, bah, c'est pas grave. Et il a été pris notamment au DocuMed, dans différents festivals, après le PrimMed, etc. Aussi à Lyon, au Festival Film Jeune de Lyon. Et donc, il y a certains festivals où c'est resté en ligne, et c'était décevant parce que j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu rencontrer les autres réalisateurs ou les membres de l'équipe. Mais quand même, ça m'a permis d'avoir une forme de diffusion. Et après, y a certains festivals comme le Festival Film Jeune de Lyon, où là, j'ai pu y aller. Le film a reçu 2 prix, donc c'était génial. Et voilà, j'ai rencontré toute l'équipe du festival, d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices. Donc ça, c'était vraiment enrichissant, quoi. Et voilà, après, il a quand même eu une vie qui m'a un peu dépassée, on va dire, parce que encore aujourd'hui, voilà, on fait ce podcast. Il a été diffusé par Film Femmes Méditerranée, aussi en milieu carcéral, où j'ai pu faire une intervention. Donc ça a été chouette. Et aussi en foyer d'accueil et de réinsertion pour des femmes, pour après parler de la masculinité. Donc ouais, ça m'a vraiment agréablement surprise, et surtout, c'est super aussi encourageant qu'il ait plu et qu'il ait... eu autant de... d'avoir des sollicitations, tout ça, c'est chouette, parce qu'à la base, c'était un film de fin d'études, je veux dire, qui aurait pu s'arrêter là, quoi.
C'est quoi les réactions des gens, généralement, comment les gens répondent à tous ces questionnements que t'as provoqués sur la masculinité?
Je trouve que le film est vraiment bien reçu. Déjà, y a un aspect vraiment important pour moi, c'était l'aspect humour. Parce que je trouve qu'à Marseille, il y a la tchatche et il y a tout cet aspect drôle, en fait, et pas du tout sous le signe de la moquerie, mais plus de en fait, on rigole, et je trouve qu'il y a plein de moments dans le film qui sont apparus un peu drôles, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai bien aimé, des fois, quand j'étais dans les salles de cinéma, rester pendant le visionnage et d'entendre les gens qui riaient, tout ça. Mais pas du tout, comme je disais, sous la forme de la moquerie, plus de des fois, c'était attendrissant, quoi, en fait. Donc, ça, j'ai bien aimé. Après, le film a été reçu de manière générale plutôt bien. Et après, j'ai eu plein de questions, des fois, lors d'échanges. Ok, mais du coup, comment t'as fait ce film et comment t'as fait pour aller dans ce lieu avec que des hommes? Enfin voilà, c'était beaucoup ça qui revenait quand même. Et après, des fois, c'était notamment dans le foyer d'accueil pour femmes, c'était super intéressant parce que c'était des femmes d'origine assez diverse, notamment du continent africain. Et qui étaient immigrées, et certaines ne comprenaient pas du tout. En fait, on parlait un peu du rapport à la paternité, notamment, qui est aussi un des volets du film vers la fin, et qui, elles, pour elles, c'était pas du tout leur manière de faire. Ou on parlait des larmes, du fait que des hommes puissent pleurer. Enfin, certaines me disaient, mais moi, je comprends pas, un homme qui pleure, c'est un faible. Enfin, voilà, donc on parlait de tout ça, et ça a fait émerger vraiment des échanges super intéressants, en fait. Après, c'est vrai que dans les salles de cinéma. Que j'ai pu faire comme aux variétés, tout, c'est des questions, on va dire, plus classiques qui reviennent. Mais voilà, après, ce qui est intéressant, c'est de confronter le film aussi à des personnes Différentes. Et voilà, en milieu carcéral, c'était que des hommes. Donc, pareil, ça a fait émerger des discussions de ouf, quoi. Vraiment, ça m'a trop marquée. Et c'était chouette parce que certains hommes sont venus aussi à la fin me dire merci, ça fait du bien. Parce que, voilà, moi, des fois, j'ai honte de pleurer ou j'ai honte d'assumer cette part de féminité ou de sensibilité, en fait, que j'ai. Et des films comme ça, bah, ça me permet de voir d'autres hommes qui sont comme moi, en fait.
On a un peu abordé indirectement ta place en tant que femme dans cette équipe, dans ce lieu-là. Le podcast est un podcast féministe où on parle du sentiment d'imposture. Donc vient la question ultime. Est-ce que, peut-être dans le cadre de ce projet-là ou vraiment en général dans ton parcours en tant que photographe ou cinéaste, est-ce que tu vis le sentiment d'imposture? Ou on en avait déjà parlé hors micro ensemble que le documentaire, c'était pas nécessairement considéré comme une forme d'art ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu vis avec ce sentiment-là?
Alors, je dirais que ce sentiment est bien présent. Et que c'est un cheminement, en fait. Y a des moments dans ma vie où je ne me suis pas sentie à ma place. Notamment, par exemple, aux Beaux-Arts, j'étais plus dans quelque chose de documentaire et pas vraiment de conceptuel. Après, j'ai intégré le master d'anthropologie. Je ne venais pas du tout de l'anthropologie. Donc, pareil, des fois, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je ne me retrouve pas du tout. Enfin, voilà, j'ai pas les codes, en fait. Et après, en intégrant le master documentaire, déjà... Moi, personnellement, j'avais le sentiment de trouver plus ma place, en fait. OK, il y a cet aspect anthropologique, sociologique, mais aussi l'aspect artistique. Et du coup, ça rejoignait un peu tout ce que j'avais entrepris jusqu'à présent. Après, oui, c'est sûr qu'en tant que femme, dans le cinéma, c'est un long et fastidieux travail de... OK, on a notre place et voilà, en fait. Mais je trouve que c'est quand même en train de bouger. Et après, moi, personnellement, en tant que femme, dans la création, y a plein de moments où j'ai des doutes, où je suis en proie aux doutes, aux questionnements. Et en même temps, je me dis que ces doutes et ces questionnements, c'est ça qui fait avancer des fois. Parce que c'est en se remettant aussi en question qu'on avance, qu'on se dit « Ok, en fait, c'est ça que je veux dire et pas ça. C'est ça que je veux transmettre et pas ça. » Enfin voilà, donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Après, moi, je suis maman depuis quelques mois. Et j'avoue que ça a vraiment apporté quelque chose dans ma vie aussi, de devenir mère. Parce que je réfléchis beaucoup à ce que je veux transmettre à ma fille. Et en fait, de plus en plus, je me dis, mais en fait, j'ai envie d'avoir confiance en moi pour qu'elle puisse avoir un modèle aussi chouette et pas de dévalorisation constante de soi-même, en fait. Et c'est pareil, c'est plein de questionnements sur le rapport après à ma mère, à ma grand-mère. Enfin, il y a toute cette lignée de femmes... qui est là et qui m'a apporté énormément de choses et en même temps je fais aussi le tri par rapport à ça et du coup là je me dis moi dans cette vie il faut que j'apprenne à prendre ma place vraiment pour aussi ma fille lui transmettre des belles choses en fait voilà donc je dirais que ce sentiment est bien là mais c'est un chemin.
Puis c'est ta fille qui te motive à t'en débarrasser pour de bon.
C'est ça exactement.
Wow, c'est une très belle réponse. Pour la suite des choses, là, tu viens d'avoir un enfant, donc, mais est-ce que tu continues aussi à conjuguer ta vie créative avec la maternité? C'est quoi tes projets actuels ou à venir?
Donc là, j'ai fait une grosse pause, une grosse pause en fait, pas tant que ça, mais de quelques mois pour ma fille. Là, du coup, maintenant, moi, je suis vraiment freelance autant en photo qu'en vidéo. Donc, c'est beaucoup de travail plus corporel, tout des fois pour des compagnies de danse ou ce genre de choses. Et ça m'apporte énormément. Après, je ressens vraiment le besoin de quand même continuer mes projets perso que j'ai aussi un peu mis de côté avec tout ça. Donc, voilà, c'est un peu le projet futur, c'est de faire un autre film vraiment à moi. Qui se déroulera sûrement à Marseille. Après, pour l'instant, il est en phase d'écriture, donc j'en parle pas trop parce que c'est pas assez élaboré. Oui, je ne quitte pas l'envie et le besoin de faire mes propres créations, on va dire. Voilà, après, c'est vrai que pour le moment, je suis assez prise avec ma fille, avec tout ce qui se passe dans la vie, dans ma vie, quoi. Et donc, je me dis chaque chose en son temps. Et comme j'ai tendance à me mettre beaucoup la pression pour avancer vite, des fois, je me dis, OK, en fait, j'ai envie, grâce à ce temps qui m'est offert, de revoir aussi les choses et de pas toujours me stresser pour faire telle chose comme ça, tac, 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 avec beaucoup d'exigence. Et parce que je trouve que les femmes aussi, on se met une pression mais monstrueuse. Donc là, j'apprends aussi petit à petit à lâcher la pression, à me consacrer à ma fille, chaque chose en son temps, et voilà, prendre du temps pour chaque chose, en fait, aussi.
Et pour ceux qui veulent prendre le temps de voir le film, comment on fait ?
Alors, je me disais que ça pourrait être chouette qu'on voit ensemble, mais que on puisse mettre le film en accès libre pendant, par exemple, 15 jours à partir de la diffusion du podcast. Et voilà, comme ça, les gens pourront le voir. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours. C'est super intéressant et important pour moi, pour mes prochaines réalisations. Voilà.
Donc, on va laisser le lien du film sur l'Instagram du podcast. Et on va aussi laisser le lien de ton site web et de ton Instagram pour celles et ceux qui veulent désormais te suivre. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci beaucoup pour cette invitation. C'était génial de pouvoir prendre le temps de parler un peu de soi, de ce qu'on fait.
C'est ça le but. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la troisième saison des Impostures avec la photographe et cinéaste Anaïs Bazeillac, enregistrée dans les studios de Radio Galère à Marseille. Les Impostures est un podcast indépendant réalisé, animé et produit par Sidonie Gaulin avec l'aide de Majdouline Rami à la prise de son et à la consultation au montage. Je remercie aussi Alice Irénée Lorès qui a illustré l'épisode, Maëva Gauthier-Chartrand qui a créé l'identité graphique du projet et Antoine Desrochers-Godin qui a composé le jingle et les virgules sonores. Surtout, merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute précieuse et indispensable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez l'épisode autour de vous et on se retrouve dans deux semaines pour la suite.